Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Alors aujourd'hui, nous allons en Afrique du Sud où s'est joué un procès du réchauffement climatique.
Oui, des fermiers du continent africain sont venus témoigner des conséquences du réchauffement climatique sur leur quotidien devant un jury d'experts du climat présidé par Desmond Tutu.
Ce problème est notre problème à tous. Ça va ne servir à rien d'avoir des milliards de dollars. Vous allez vous noyer dedans si vous n'agissez pas. Nous sommes en train de couler ensemble. Certains dans les BMW et d'autres à Dodane, mais nous y allons ensemble.
À la barre, des victimes venues du Kenya, d'Ouganda, du Malawi, du Mali et d'Afrique du Sud sont venues témoigner pour raconter leur histoire dans le box des accusés, tous leurs problèmes avec le réchauffement climatique. Un simulacre de procès organisé par l'ONG Oxfam pour faire entendre les voix des plus faibles dans un seul but, stimuler la volonté politique pour lutter contre le réchauffement climatique. Le procès du réchauffement climatique, un reportage de Clémence Petit-Perrot à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Sacraliser cette eau, c'est même pas juste une question d'économie. Il y a tout un côté conceptuel, philosophique à remettre en question et lui redonner sa juste place.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec vous, Anne Lestrade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, chargée de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des canaux. Vous êtes aussi présidente de la régie Hauts-de-Paris. Une ville comme Paris consomme combien d'eau par jour ? Sur quel volume on se base pour gérer une telle demande ?
Alors aujourd'hui, on se base sur un volume à peu près de 550 000 mètres cubes. Pour tout Paris. Alors pour les résidents parisiens
par jour,
mais ça comprend évidemment aussi les touristes et les travailleurs sur Paris. Donc c'est pas seulement pour la population parisienne, mais il faut noter que cette consommation décroît chaque année et que nous assistons à peu près à 30% de réduction en à peine 20 ans.
Comment ça se fait ?
Ce qui est assez énorme parce que, d'abord, tout ce qu'on appelle les grands comptes, les grands consommateurs, les administrations, les hôtels, ont énormément économisé l'eau, puisque ça coûtait quand même assez cher. Il y a aussi un changement d'activité sur Paris. Et donc, on voit beaucoup plus d'administrations, de services, et beaucoup moins consommateurs d'eau. C'est-à-dire que les industries sont parties de Paris. Et puis après, le troisième facteur, c'est vous, c'est nous. Nous changeons nos habitudes, nos consommations d'eau. C'est tous les équipements domestiques aussi qui sont beaucoup plus économes en eau. Et donc, avec ces trois facteurs, nous assistons à une économie de la ressource importante, ce qui est d'ailleurs très très bien pour l'écologie, et avec une tendance toujours à la baisse.
Alors bien sûr, dans l'actualité, il y a les réunions qui se multiplient à l'approche de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera à Copenhague en décembre. L'Union africaine se réunit actuellement à Addis Abeba pour affiner la position de l'Afrique. Et le dernier forum des économies majeures vient de refermer ses portes avec des déclarations tonitruantes, Arnaud, du Premier ministre britannique.
Oui, Gordon Brown a rappelé qu'il restait moins de 50 jours pour fixer le cours des 50 prochaines années. Il a souligné que c'est à Copenhague que nous devons trouver un accord, sinon, une fois que les dégâts seront d'une croissance non contrôlée, nous irons dans des situations extrêmement compliquées et il faut absolument arriver à un accord international à Copenhague. Alors, moi je voudrais juste vous poser une question, c'est savoir un petit peu, vous j'imagine que vous suivez toutes ces questions et tout ce débat international. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette négociation ? Comment vous voyez cette négociation ?
Alors, c'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a une mobilisation générale pour faire que Copenhague soit le lieu de la négociation pour, comme dit Gordon Brown, pour les 20 ou 50 prochaines années, pour contraindre les politiques gouvernementales à changer leur mode de développement. C'est vrai qu'il y a un objectif très fort à Copenhague. Il se trouve que il y a 10 minutes, j'étais aux universités de rentrée de WWF et nous parlions de Copenhague et il y avait une sorte de consensus qui se faisait jour pour dire que des objectifs c'est bien, mais il faut des objectifs avec des moyens. Et que si nous ne faisons que de l'affichage politique, histoire de rassurer l'opinion publique, pour dire que les gouvernements certes sont mobilisés et donc ils s'assignent des objectifs forts, mais s'il n'y a pas de moyens, il risque d'avoir une vraie, on va dire, une vraie déception, et voire une vraie démobilisation. Donc on a des objectifs à s'assigner, mais avec des moyens aussi afférents.
Avec des moyens financiers, vous voulez dire ?
Avec des moyens financiers, avec des outils aussi de fiscalité, avec des outils de politique publique. Sur quelle infrastructure on investit, quelle politique énergétique on met en place pour que ce ne soit pas, on va dire, des objectifs seulement de petits termes, parce que c'est aussi ça le vrai danger. Il ne faut pas seulement viser 2020, il faut viser 2050 si on veut changer structurellement nos modes de développement pour que nos sociétés s'inscrivent sur d'autres rails. Parce qu'autrement, on risque d'avoir une énième rencontre internationale avec un écho médiatique jamais atteint, mais qui soit seulement de l'affichage. Et moi, j'ai un autre, évidemment, sujet, ça ne vous étonnera pas, qui me tient à cœur sur Copenhague, c'est qu'il faut déjà que nous, on ait un agenda ambitieux, et il faudrait aussi qu'on ne se focalise pas que sur le climat. C'est évidemment très important de parler du climat, et donc des politiques énergétiques, mais par exemple pour l'eau, c'est une ressource qui est fortement impactée par le changement climatique. Et l'eau, c'est le vivant, les écosystèmes, c'est toutes nos activités. Et il faut absolument que l'eau soit aussi inscrite dans l'agenda de Copenhague, parce que c'est une des premières ressources essentielles touchées par le changement climatique.
Alors, pour diviser nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, on veut les diviser par 4, hein, c'est quand même ambitieux. La ville de Paris a décidé de mettre à la disposition des Parisiens une carte thermographique des 100 000 immeubles parisiens. La couleur rouge permettra de repérer les plus importantes pertes d'énergie, non seulement au niveau des toits, mais aussi des façades des immeubles. Dans un premier temps, seulement 500 immeubles de style et d'âge différents seront répertoriés sur le site, mais courant 2010, chaque Parisien pourra voir son immeuble sur le site internet. C'est vrai que c'est assez magique, hein. Denis Bopin, l'adjoint à l'environnement de la mairie, a rappelé que la consommation énergétique des 100 000 immeubles parisiens représente la production de 4 centrales nucléaires. C'est vrai qu'on se demande, comme vous le disiez, hein, quels sont les moyens concrets qu'on va utiliser pour diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
Et notamment, ça concerne évidemment l'habitat. C'est l'un des premiers postes de consommation énergétique. Et donc on a évidemment un vrai enjeu sur l'isolation. Donc c'est vrai que cette carte, ça ne remplace pas le diagnostic thermique qu'on doit avoir sur les immeubles, mais ça permet une sensibilisation, une mobilisation des habitants et des citoyens pour dire « Ah, visiblement mon immeuble, il a 80 ou un siècle, il est mal isolé, il s'affiche rouge sur cette carte, je vais pouvoir engager des travaux d'isolation. » Donc c'est une façon assez forte de mobiliser sur l'efficacité énergétique de l'habitat.
Alors pour mobiliser, les Chinois s'y connaissent, hein. Il y a un projet absolument gigantesque en Chine. Les autorités chinoises ont entrepris de déplacer 330 000 personnes vivant dans le centre du pays pour construire le plus grand projet d'adduction d'eau jamais planifié, acheminer les eaux d'un affluent du fleuve Yangtze jusqu'à Pékin. Il s'agit donc de construire un canal de 1300 km de long pour acheminer 13 milliards de mètres cubes d'eau vers les villes qui seront donc sur le bord du canal avec Pékin comme but ultime. Alors ce projet est en gestation depuis des années, mais sa logistique est tellement énorme que les travaux ont pris 5 ans de retard. Il devrait se terminer en 2014. Si la Chine se lance dans de tels travaux, c'est qu'elle considère que l'enjeu est d'importance. Anne Lestrade, est-ce qu'il n'y a pas besoin de tels projets à Paris? Comment vous voyez ce genre de projet extraordinaire, énorme projet chinois?
Alors, c'est vrai que ce projet, en plus, il a commencé à être pensé par Mao Tse-tung. Donc, c'est vrai que ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit pas. Déjà, les Chinois font quand même toujours dans le très très grand, dans le massif, parce que pour le barrage des Trois Gorges, ils ont déplacé quand même quasiment 1 300 000 personnes.
Mais là, il ne s'agit que de
300 000 personnes, avec une infrastructure absolument titanesque. Moi, je veux pas. De toute façon, je suis pas là pour donner des avis sur la politique chinoise en matière de ressources hydriques. La seule chose que je pointe juste, c'est que certes, il y a un enjeu de répartition de la ressource sur un territoire, par exemple, comme la Chine. Il y a aussi un enjeu de qualité de la ressource. En Chine, quasiment les trois quarts des ressources en eau, qu'elles soient souterraines ou de surface, sont totalement polluées, contaminées. Et donc, parfois, il y a le risque de considérer enfin, d'avoir une politique seulement de ressources additionnelles. C'est-à-dire, on va construire des grosses infrastructures, avec un bilan écologique par contre dévastateur, pour essayer d'avoir plus d'eau à tel endroit. Mais il faudrait peut-être essayer de réfléchir, d'accord, mais pour quel usage? Pour quel type de population? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à préserver la ressource sur tel territoire pour éviter justement de la transporter d'un autre territoire? Donc il nous faut plutôt réfléchir en matière d'offres et de qualité plutôt que toujours de demande.
C'est pas du vent, donc sur RFI, et c'est maintenant l'heure de notre zoom sur l'actualité d'un continent. Aujourd'hui, on part aux Amériques.
Bonjour Orlando Torricelli.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Alors, on commence avec des ours.
Voilà, tout à fait, mais des ours polaires. Les Inuits canadiens n'ont pas beaucoup apprécié la décision des États-Unis de proposer que l'ours polaire soit classé espèce menacée d'extinction. Washington se propose en effet de faire passer l'ours polaire de l'annexe 2, espèce en danger, dont le commerce est strictement réglementé, à l'annexe 1, espèce menacée d'extinction dont le commerce est interdit, sauf à des fins scientifiques. C'est une attaque directe contre nos droits et contre les économies locales des peuples autochtones, a déclaré les présidents de la principale organisation inuite canadienne.
Et plus au sud, Orlando, El Niño change de comportement.
Tout à fait, Cécile. De résultats récents ont démontré que ces phénomènes climatiques pourraient changer profondément avec le réchauffement du climat. À ces propos, on a joint par téléphone l'océanographe Boris Devitt, qui dirige ses travaux au Pérou.
Dernières années, on se constate que les El Niño ont changé de caractéristiques, ils se développent plus dans le centre du Pacifique, parce que c'est là, en fait, que sous l'effet du réchauffement climatique, l'océan se stratifie davantage. Qu'est-ce que ça veut dire stratifie? Ça veut dire que la thermocline, et cette zone qui sépare les eaux de surface des eaux froides, a tendance à remonter. Et cette remontée de la thermocline produit donc un changement de la dynamique de ce phénomène. Les El Niño qui se développent plus dans le centre du Pacifique ont tendance en fait à modifier la mousson sur le continent indien et à provoquer des sécheresses dans tout le secteur de la côte est de l'Australie. Donc on devrait s'attendre en fait à des sécheresses répétitives et persistantes dans ce secteur du monde.
Et dans les cas du Pérou, ces changements auront sans doute un impact écologique et économique évident.
On s'intéresse pour la région Pérou-Chili au phénomène El Niño, car toutes les perturbations qui viennent du Pacifique tropical en fait se transmettent le long des côtes. Ils viennent perturber la circulation océanique le long des côtes et donc tout l'écosystème péruvien qui est très productif, qui produit beaucoup de poissons. Et donc une modification d'El Niño va forcément induire des changements profonds sur l'écosystème péruvien, la zone du monde où on pêche la quantité de poissons la plus importante.
Anne Lostrade, vous vouliez réagir?
Oui, parce que c'est, pour moi c'est vraiment un cas qui illustre bien l'approche systémique qu'on doit avoir entre les ressources climatiques, enfin je veux dire les négociations climatiques et les ressources hydriques qui peuvent être impactées. On voit bien là que tout dérèglement climatique peut évidemment engendrer après un problème de crue ou de sécheresse sur des territoires et donc impacter très fortement les économies locales. Et j'avais juste sur l'autre sujet, je pense qu'il ne faut vraiment pas en effet avoir l'arrogance des pays riches qui avons largement consommé, dilapidé, gaspillé les ressources et qui sommes là maintenant à dire halte, nous n'avons plus qu'un petit gâteau à nous partager. Maintenant, on va vous expliquer quelles ressources il faut protéger, quelle espèce il faut protéger et comment vous allez devoir modifier vos économies locales. Donc, il faut absolument qu'on tienne compte quand même des pays en grande difficulté et qu'il n'y ait pas l'arrogance des pays riches.
Alors, Orlando, pour finir, on revient au Canada, cette fois-ci avec des soucis de diététique des orques.
Oui, tout à fait, Arnaud. Oui, et des orques, des phoques de la côte ouest canadienne qui souffrent d'une obésité grandissante. Oh. L'origine de ce phénomène s'est réduite à la perte de matières grasses dans les saumons, car l'océan se réchauffe. Alors, pour pallier cette carence en graisse, les phoques et les orques auraient tendance à manger davantage.
Merci, Orlando Torricelli.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Anne Lestrade, début janvier, Paris aura confié toute sa gestion de l'eau à un opérateur public de la production jusqu'à la distribution. Qu'est-ce que ça va changer ?
Alors, avant, nous avions trois opérateurs qui étaient en délégation de services publics, donc avec des contrats de 25 ans avec la ville de Paris. Et là, on crée une régie des eaux. Donc, c'est vraiment un opérateur municipal. Ça va permettre d'abord une véritable simplification institutionnelle, en fait, du service. Ça va permettre aussi de nous retrouver le contact avec l'usager, ce qui était un peu perdu. Ça va permettre des gains économiques. Parce que il y avait parfois des chevauchements de responsabilités, des chevauchements de fonctions entre ces délégataires. Donc on a des gains économiques attendus. On les a estimés à minima à 30 millions d'euros. Mmh. Avec là aussi pour conséquence, c'est qu'on a pris un engagement de stabiliser la part eau de la facture. Cette part eau, elle avait quand même augmenté de 260%. Donc là, on la stabilise. Et donc on est en train de créer un service public que je pense totalement efficace et performant et suffisamment exemplaire pour qu'il puisse peut-être inspirer d'autres collectivités sur le chemin que nous avons pris et qui sera sous maîtrise publique. C'est important parce que quand on évoque justement l'importance des enjeux de l'eau, il nous semble assez primordial à Paris d'avoir un service qui puisse être contrôlé, suivi par la collectivité parisienne et qui puisse répondre à des enjeux d'intérêt général et qui ne soit pas, comme c'était le cas auparavant, aux mains parfois d'intérêts privés et pas forcément bien contrôlé.
Alors, moi, je voudrais vous demander un petit peu au niveau international. Beaucoup de villes de par le monde ont été confrontées à des problèmes de gestion de l'eau, notamment avec des compagnies privées. On a beaucoup parlé au niveau international de partenariat public-privé. Et vous êtes une partisane du partenariat public-public. Alors, est-ce qu'une ville comme Paris pourrait intervenir, par exemple, auprès d'une municipalité bolivienne en partenariat avec elle, sans l'intervention d'une compagnie privée ?
Mais c'est ce que nous souhaitons, ce que nous souhaitons faire. C'est vrai que partisane du service public, je suis évidemment partisane des partenariats public-public qui commencent à émerger. Et d'ailleurs, il y a une actualité qui, j'espère, d'ailleurs, sera totalement validée, décidée politiquement. Mais à la commission de Bruxelles serait prête à débloquer 40 millions d'euros pour des partenariats public-public avec des opérateurs européens qui pourraient justement aider des municipalités en Amérique, en Asie. Et donc ça, c'est un premier pas important parce que nous avons constitué un réseau européen d'opérateurs publics qui s'appelle Aqua Publica Europea, avec l'idée de promouvoir la gestion publique. Et on voit que notre combat, qui était parfois vu comme un peu, on va dire, anecdotique ou pas très sérieux, commence à prendre plus de force, même au niveau des institutions européennes. Et une ville comme Paris, avec son opérateur, pourra évidemment s'intégrer dans ces partenariats.
Vous viendrez nous en reparler dans C'est pas du vent. Merci Anne Lestrade d'être venue sur RFI. Votre magazine de l'environnement continue juste après un bref rappel de l'actualité. Nous irons en Afrique du Sud. À tout de suite.